Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan. Vlan, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment le marketing a évolué. Bienvenue sur Vlan et n'hésitez pas à vous abonner.
Bonjour à tous, je suis avec Georges-Édouard Dias, qui est l'ancien directeur digital du groupe L'Oréal, que j'ai connu chez L'Oréal il y a très longtemps. Je me souviens plus exactement dans quelles circonstances. Ça fait trop longtemps.
Moi non plus. Bonsoir Greg d'ailleurs.
Voilà. Ça fait trop longtemps. Et en fait, t'as créé une boîte entre temps et surtout t'as écrit un bouquin. Et j'ai entendu un speech sur ce bouquin-là et ça m'a semblé hyper intéressant. En l'occurrence, c'est sur l'hospitalité. Je trouve que aujourd'hui, les marques se posent beaucoup de questions sur comment envisager le marketing à l'ère digitale. Moi, je crois beaucoup à l'humain. Je pense que l'humain est vraiment clé dans cette équation, en fait. À l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer, parce qu'on est dans un monde digital, donc on pourrait imaginer qu'il y a des machines partout. Moi, je crois beaucoup à l'intelligence émotionnelle. Je crois beaucoup à la relation humaine, etc. Pourquoi tu as fait ce bouquin? D'où c'est sorti, en fait?
Parce que lorsque j'ai commencé ma boîte qui s'appelle QuantStream, c'était au moment où le buzzword, c'était le big data. Tout le monde me parlait de big data.
Ouais.
Et en fait, moi, je trouvais ça extrêmement intéressant, la notion de big data, parce que c'était une manière qu'avaient les entreprises de pallier la déficience du média traditionnel, et notamment sa perte d'efficacité. Et c'était la promesse que comment on allait mieux cibler les gens, on allait résoudre l'équation des 50% de messages qui n'atteignent pas les bonnes personnes, mais qu'on paye quand même, et que grâce à la donnée, on arriverait à être beaucoup plus efficace dans le marketing, et même, il y avait un espoir derrière, c'est qu'on serait plus accepté en tant que marketeur, parce qu'on aurait des messages plus pertinents.
Mmh. On n'y est pas encore. Hein. Enfin, c'est-à-dire...
Mais justement, c'est là où j'en suis arrivé, je me suis dit, en fait, contrairement à ce que je pensais, on a utilisé le big data, mais le big data, ça a servi à plus manipuler les gens. À le big data qui était issu, par exemple, des objets, bah, ça a permis de récupérer plein de données qu'on utilise à l'insu des consommateurs. Et en fait, plein de technologies qu'on a utilisées, c'est des technologies qui, en fait, n'ont pas amélioré la qualité du message, la qualité de l'échange, la qualité de la conversation. En fait, ça l'a déshumanisé et ça a augmenté le rejet du marketing. Donc, ça va exactement dans le sens inverse de la valeur dont tu parlais tout à l'heure, qui est l'humanité.
Alors, si on se place du point de vue du marketeur, de manière hyper, hyper basique, ce qu'il veut, c'est pas tant avoir une relation humaine, ce qu'il veut, c'est vendre. On est d'accord? Enfin, à la base, une boîte, ce qu'elle fait du marketing, c'est quand même la science de la vente. Donc, l'idée, c'est comment je peux vendre plus de produits. Est-ce que dans ce sens-là, ça fonctionne pas?
Non, parce que, écoute, moi, j'ai fait, tous mes cours de marketing, on va expliquer, tu sais, il y a un truc formidable. Ton métier, c'est de faire du ciblage. Et on va te donner tous des outils de ciblage. Mmh. Et le big data, c'était un super outil de ciblage, on est d'accord. Mmh.
Mais en fait... qu'ils ont encore utilisé.
Mais en fait, qu'est-ce que tu t'aperçois? Tu t'aperçois de quoi? Tu t'aperçois que grâce au digital, les consommateurs, bah, finalement, ils ont beaucoup plus de capacité à trouver ce qu'ils cherchent. Mmh. Ils sont beaucoup plus experts d'eux-mêmes, parce qu'ils ont plein d'objets qui les mesurent, donc ils ont plein de data sur eux. Ouais. Et puis, ils ont plein d'outils pour faire appel à leur père, réseaux sociaux, des experts indépendants. Ouais. Ils ont plein de moyens de recherche. Donc, en fait, c'est devenu des chasseurs. Mmh. Et si, quelque part, le consommateur est devenu un chasseur, ça doit être quoi la position des marques? bah, les marques, elles doivent s'accepter comme gibier. Le gibier le plus attractif pour les consommateurs. Donc, le problème du marketing, c'est plus de vendre, c'est de rendre la marque désirable. Le problème du marketing, c'est de rendre la marque hospitalière. C'est pour ça que j'ai fait ce bouquin sur l'hospitalité, parce que l'hospitalité, c'est la désirabilité de la marque, mm-hmm. qui est la nouvelle règle du marketing à l'ère du digital, parce que mon consommateur, il est devenu un chasseur. Aujourd'hui, comme je le dis, le lapin a tué
le chasseur. Et alors, comment on devient une marque hospitalière? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on devient une bonne cible, finalement, en tant que marque?
Bien, tu vois, il y a trois valeurs qu'on essaie de prôner dans l'hospitalité. La première, c'est la bienveillance. Mm-hmm. C'est-à-dire, je veux dire simplement, c'est la capacité de donner avant de recevoir. Mm-hmm. C'est-à-dire, de pas être tout de suite à demander de l'argent, mais d'abord d'établir le contact et d'accepter de donner un peu de soi-même, que ce soit des services, que ce soit des choses.
D'apporter de la valeur.
D'apporter de la valeur. Mm-hmm. Ce qu'on connaît un peu d'ailleurs dans le freemium, on essaye d'apporter de la valeur parce que au moins on montre qu'on est bienveillant vis-à-vis des gens. Mm-hmm. La deuxième chose, c'est l'humanité, t'en parlais tout à l'heure. Mm-hmm. Moi, je crois que fondamentalement, l'intelligence artificielle, les robots, ça n'est intéressant que si c'est un prolongement de l'humain. Et ça n'est intéressant que si ça libère l'humain sur la tâche qui est essentielle pour lui, c'est-à-dire d'établir le contact, la conversation, la relation. Tu te souviens, il y a en 1999, il y avait Doc Searls qui écrivait son bouquin avec ses partenaires de Boston, qui s'appelait The Clue Train Manifesto, le manifeste des évidences, et il disait les marchés sont des conversations. Mm. Donc la valeur aujourd'hui, si la valeur du marché vient de la conversation, la valeur de l'humain, c'est de susciter cette conversation, mmh. être capable de la transformer quelque part en valeur à la fois pour l'entreprise, mais aussi pour le consommateur. Et puis la dernière chose, c'est générer de l'intimité. Pour moi, cette valeur est essentielle, c'est-à-dire intimité, c'est-à-dire connaître son consommateur au point que finalement, quand il pense à la marque, il a l'impression que c'est la sienne. Tu sais, le compte de l'hospitalité, c'est toujours quand tu es reçu chez quelqu'un, que tu as l'impression en fait, que c'est comme si c'était chez toi.
D'ailleurs, en français, et c'est toi qui faisais cette remarque derrière ta conférence, je crois qu'en français, le mot est le même.
Oui, c'est-à-dire, moi, j'essaie toujours de traduire cette phrase que je viens de dire, c'est The guest is the host. Et si je traduis ça en français, ça fait l'hôte et l'hôte. Ouais. Pourquoi? Parce que les Français, naturellement, avaient intégré cette espèce de compte de l'hospitalité qui était qu'il fallait qu'on fasse paraître à l'invité qu'il était lui-même l'invitant.
Mais alors, comment on fait ça quand on est une marque? Et est-ce que c'est valable pour toutes les marques? Parce que si toutes les marques font ça, au bout d'un moment, ça élève le niveau, mais du coup, ça ne permet plus de se différencier. Alors, la première question, c'est comment on le fait? La deuxième, c'est est-ce que toutes les marques peuvent le faire? Et la troisième, c'est si tout le monde le fait, qu'est-ce qui se passe?
Alors, d'abord, c'est fondamentalement, c'est de repenser le marketing autour de la relation entre les gens. Mmh. Tu vois, de dire aujourd'hui, le marketing, c'est pas la valeur de pousser des produits, c'est la valeur, c'est de servir des gens. Mmh. Et c'est par le service de ces consommateurs que je vais créer de la valeur pour mon entreprise. Mmh. Donc, c'est la première chose. Ça veut dire que j'essaie de repositionner la relation client dans quelque chose qui est à l'écoute et au service du consommateur. Je dis toujours, on parlait toujours des 4P, tu sais, prix, produit, placement, etc., qui est une espèce de tunnel produit. Mmh. Et nous, on essaye de mettre en place autour de l'hospitalité un espèce de cercle vertueux qu'on appelle les 4C. Mmh. La première chose, c'est la conversation dont on a parlé, capter cette conversation, la rendre intelligente, donc la curation, le deuxième C, que la marque apporte une solution qui correspond exactement à ce qu'elle a compris des besoins du consommateur, la customisation. Et le dernier, c'est tellement proche de ce que le consommateur attend, c'est tellement lui, cette solution, que ça apporte une communion qui elle-même ramène de la valeur. Et en fait, si tu regardes ça, ce n'est plus une relation client qui est dictée par la marque, qui impose son mode de relation vis-à-vis du consommateur, ce qu'on appelle le CRM, Customer Relationship Management, je manage en tant que marque ma relation avec mes clients. C'est l'inverse, c'est de proposer un système où la marque dit à ses clients, comment veux-tu que je m'adresse à toi? Quel type de service je dois t'amener? Et fondamentalement, c'était dans la prolongation de ce qu'avait pensé Doc Searls, donc celui qui avait écrit le livre, mm-hmm. The Clue Train Manifesto, c'était d'inventer ce nouveau mode relationnel qu'il a appelé la VRM, Vendor Relationship Management, où c'est
bon. Qui est un vieux concept, effectivement.
Qui est un vieux concept, mais qui a jamais,
qui a jamais émergé.
Qui a jamais émergé, mais qui est cette idée très simple de dire, bah voilà, le but de la marque, c'est de mettre à disposition des clients un système qui lui permet, en tant que client, de manager, de gérer sa relation avec la marque. Et donc, cette relation, elle est beaucoup plus profitable, parce qu'effectivement, elle amène de la valeur au client, et en amenant de la valeur au client, elle amène de la valeur à la marque.
Mais concrètement, ça veut dire quoi? Enfin, je veux dire, concrètement, comment une marque s'y prend face à ça? Est-ce qu'il y a des exemples de marques qui font ça?
Aujourd'hui, quand je cherche effectivement qui fait de la VRM, moi, dans, tu sais, j'étais chez L'Oréal, j'ai une marque qui est genre Monsieur Jourdain qui faisait de la pro sans le savoir. Et je pense que cette marque fait de la VRM sans jamais l'avoir nommée, c'est Kiehl's.
Ouais.
Et je vais te donner un truc très symbolique, de significatif de ça. Chez Kiehl's, il y a évidemment des vendeurs. Quand tu vas dans le magasin, tu as des vendeurs. Et ces vendeurs s'appellent KCR, Kiehl's Customer Representative. Mm-hmm. Ces vendeurs sont donc, si je traduis, les représentants du consommateur vis-à-vis de la marque. Dans toutes les marques que tu connais, mmh. on a des vendeurs qui sont des représentants de la marque vis-à-vis du client. Mmh. Leur mission, c'est quoi? C'est de comprendre le besoin du client et d'apporter cette solution customisée. Donc, fondamentalement, dans l'organisation humaine, dans l'organisation relationnelle, ils sont partis de cette idée qui est de la VRM. Et fondamentalement, ça va plus loin. Ça va que, par exemple, quand tu rentres dans un magasin Kiehl's pour la première fois, on va pas te vendre un produit, on va essayer de comprendre quels étaient tes besoins et on va te faire tester les produits. C'est-à-dire, on va te donner des échantillons, bienveillance, tu vas recevoir plutôt avant de donner. Mm-hmm. Donc, tu vois, ils arrivent déjà à pratiquer cette proximité. Puis, l'intimité chez Kiehl's, c'était cette notion que fondamentalement, être client Kiehl's, c'est faire partie d'une famille, faire partie d'une communauté. Donc, c'est comme si c'était ma marque, ça a toujours été le concept, en tout cas à l'origine de la création de Kiehl's.
Mais si on reste dans la beauté, par exemple, Glossier, tu sais, qui est une indie brand américaine, donc une marque indépendante, ils poussent le truc en disant, bah, en fait, ils intègrent les consommateurs dans la réflexion produit, donc ils les intègrent bien en amont sur le marketing, et en leur demandant, et ils ont même créé un groupe avec les meilleurs clients sur Slack, typiquement, donc Slack qui est un outil relationnel plutôt interne normalement. Pour vraiment les intégrer dans la conversation, ils ont aussi créé un groupe sur Facebook pour discuter plutôt que d'avoir, enfin, c'est pas qu'ils ont pas une page Facebook, ils ont une page Facebook, mais bon, comme tout le monde sait, aujourd'hui, les pages Facebook, elles ont un reach à zéro, donc, ils ont créé un groupe pour vraiment discuter et être dans cette conversation, donc ils ont vraiment été dans ce sens. La deuxième question que je t'avais posée, c'était, est-ce que tu penses que c'est accessible pour tout le monde? Est-ce que, par exemple, si je vends, je m'appelle du Stucru, par exemple, est-ce que ça fait du sens? Ou est-ce que c'est uniquement valable pour des marques qui sont plutôt médium ou haut de gamme?
Moi, pour moi, ça fait sens pour l'ensemble des marques, parce que la marque, elle est franchement au service de ses clients. Si je suis Lustucru,
ouais.
Mon objectif, c'est pas juste de vendre des pâtes. Mmh. C'est de vendre des moments de convivialité, quelque part, qui sont autour des pâtes.
Donc, tu repars du sensor purpose, quelque part.
Et donc, dans l'idée, cette idée que tu viens de me donner, comment tu dis?
Glossier.
Glossier, ça me faisait penser à, tu sais, historiquement, je sais pas si tu te souviens, quand on était ensemble en Corée, la marque qui était pionnière de ça, c'était Misha. Mm-hmm. Misha avait créé un truc qui s'appelait The Beauty Network, parce que les Coréens, naturellement, ils sont conversationnels, mm-hmm. pour essayer de capter l'intérêt des consommateurs autour de la beauté. Mm-hmm. Et c'est de ce Beauty Network qu'est né Misha. Mmh. Donc, cette idée, elle existe, elle est très forte. Mais cette même idée, tu vois, si je regarde dans cette convivialité autour des pâtes, et les pâtes, dans l'univers italien, c'est un super moment de convivialité, on se retrouve ensemble, on partage la pasta, non? C'est comme ça que ça fonctionne. Et de se dire comment je vais partir du moment de convivialité, non pas du produit, et je vais déterminer le produit à partir du moment, c'est quelque chose qui est important. Donc, évidemment, les expériences de consommateurs, pour moi, la manière dont ils vivent le moment pâte, ils ont envie de le vivre, c'est ça qui devrait décliner la proposition de produit. Et d'ailleurs, si tu regardes ce qu'ils font, de plus en plus, ils font appel à des chefs pour faire leurs recettes, et parce que justement, ils vont mettre en place, ils vont essayer de faire la paire entre des moments spécifiques où on a envie de vivre quelque chose autour d'une idée, autour d'un concept et juste le produit.
Et du coup, si je me fais l'avocat du diable, moi je suis un gros défenseur de la raison d'être des marques et de repartir de ça, etc.
Mais
si exactement. Mais si je me fais l'avocat du diable, est-ce qu'on peut pas se dire que c'est un peu bullshit de dire quand j'achète des pâtes, j'achète un moment de convivialité alors qu'en fait je vais peut-être bouffer tout seul devant un film en fait. Enfin, est-ce que vraiment le consommateur, tu penses, a cette idée de. Est-ce qu'il connecte vraiment avec. Avec ces moments, enfin.
Mais, si tu veux, je pense que la valeur elle n'est pas seulement une valeur nutritionnelle. Je peux faire effectivement des produits qui sont uniquement sur la valeur nutritionnelle. Mm-hmm. Et encore, je vais travailler sur le type des ingrédients.
Bien sûr.
Et je vais raconter une histoire sur les ingrédients.
Ouais, sur les pâtes, on pourra imaginer qu'on peut...
Mais si tu veux des produits qui sont juste dans le fonctionnel, à mon avis, il manque un élément. Parce que c'est pas parce que je suis devant ma télé en train de regarder quelque chose que fondamentalement, par le goût, qui est un sens qui n'est pas forcément éveillé par ma télé, tu es d'accord ? Je peux pas évoquer quelque chose qui va faire que ce moment devant ma télé, parce que mon cerveau il est capable de fonctionner avec ses cinq sens, mmh. va être un moment plus riche, plus sympa, parce que je sais pas, ça m'évoquera, ça peut même faire connecter ce que je suis en train de voir à la télé avec ce que je suis en train de manger.
Ok, donc ça je comprends bien. Et alors du coup,
si tout le monde devient, ça
voilà,
et si tu poses une question.
Et si tout le monde devient.
Si tout le monde, alors tu sais, on est en train de travailler sur quelque chose qui s'appelle le quotient d'hospitalité des marques.
D'accord.
Donc notre idée, c'est que cette valeur d'hospitalité, c'est une valeur qui a besoin de se cultiver. J'ai cité peu de marques qui, pour moi, entraient dans cette valeur d'hospitalité. Ce que j'aime bien dans la notion d'hospitalité, c'est que c'est une notion ressentie. Chacun comprend ce qu'est l'hospitalité et peut comprendre ce type de relation par rapport à une marque. On a fait un quotient d'hospitalité. Pourquoi ? Parce qu'on voulait pas faire un index qui se bloquait de 1 à 100. Parce qu'on se dit, l'hospitalité, il n'y a pas de limite à s'hospitalier vis-à-vis des gens. Mmh. C'est-à-dire, quand tu me dis aujourd'hui, tout le monde va devenir hospitalier, mais c'est pas... Tu es arrivé à mettre en place un centre d'attention, un centre d'éléments de bienveillance. C'est pas pour autant que tu peux aller encore plus loin et faire encore mieux. Mmh. Ce qu'il y a de bien dans l'hospitalité, c'est que c'est jamais terminé. Parce que fondamentalement, c'est ta capacité à apporter ce supplément d'âme à tes clients. Et tes clients, ils vont évoluer tout le temps. Ils vont évoluer leur niveau d'exigence. Ils vont justement avoir des marques qui sont dans tous les domaines de plus en plus proches d'eux. Et donc, ils vont chercher encore un supplément d'âme qui va au-delà parce que c'est l'être humain. Et c'est pour ça que c'est humain, l'hospitalité. C'est qu'on a envie toujours d'aller plus loin. Il y a plein de sense of purpose. Tu vois, quand je me demandais quel est le sense of purpose de L'Oréal, c'est fondamentalement d'apporter de la confiance en soi. C'est pas de vendre des mascaras en soi. C'est pas de se regarder soi-même devant le miroir. C'est d'être capable d'avoir confiance en soi dans sa relation à l'autre. Mmh. Donc c'est là aussi une marque de transmission conversationnelle et je préfère positionner la beauté dans le conversationnel que dans l'égoïsme de moi devant le miroir. Et tu vois, comme par hasard, c'est pour ça qu'effectivement, comme par hasard, tu revois cette valeur de conversation, cette valeur relationnelle dans l'expression de la marque et ça te permet de repositionner ta valeur en disant je suis pas juste un fabricant de mascara, je suis en fait quelqu'un qui apporte une confiance en soi qui me permette d'être mieux dans ma relation avec les autres. Et ça, c'est super important.
Et alors, du coup, pour revenir sur ton ancien métier d'ailleurs, il y a une question que beaucoup de gens se posent, alors pas uniquement dans le métier de L'Oréal, mais pour beaucoup de monde, c'est la réinvention du retail, enfin des magasins. Je sais que dans la beauté en particulier, chez L'Oréal, mais chez d'autres aussi, on se pose la question des beauty advisors, donc les vendeuses de beauté qui finalement, on arrive à une situation où elles sont non pertinentes, c'est-à-dire que on arrive en magasin, finalement, j'ai moins d'informations par la vendeuse que ce que j'ai déjà en poche via mon téléphone. Je fais la queue en caisse alors que je ne le fais pas en ligne. Alors, effectivement, j'ai le produit tout de suite, mais est-ce que l'expérience, elle n'est pas un peu décevante par rapport à l'expérience que tu as en ligne ? C'est quoi le rôle des BA, donc des beauty advisors demain, dans ce principe d'hospitalité ?
Si tu veux, la difficulté aujourd'hui, c'est que, pas seulement dans la beauté, mais partout, l'humain, il est de plus en plus accaparé par des processus. Mmh. Je donnerai un exemple tout à l'heure, moi, qui m'a extrêmement frappé. C'est-à-dire qu'on cantonne l'humain dans